Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Toujours un plaisir de venir ici et de louer le Seigneur avec ses frères et ses sœurs. Et j'espère que vous allez bien. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, le mois dernier, on a commencé une série sur les habitudes de la grâce. Dans le premier sermon qu'on a vu la semaine dernière, on a parlé du fait que nous sommes tous des êtres, des créatures d'habitude. On a tous des habitudes. On adopte tous de manière mécanique ou de manière naturelle des habitudes que l'on a dans notre vie. Et en tant que disciple de Christ, intégrer les habitudes de la grâce, c'est crucial. C'est essentiel et ça permettra d'être constamment renouvelé et transformé au quotidien dans notre liturgie quotidienne. Et donc, je vous ai aussi raconté le mois dernier que ces habitudes que l'on vit, ces habitudes de la grâce, de l'évangile, doivent s'inscrire dans un projet, dans une œuvre qui est beaucoup plus grande que notre propre vie. Parce que trop de fois, on est simplement auto-centré sur notre propre vie. Et alors que, en fait, tout ce que l'on fait doit s'inscrire dans l'avancement et le grandissement du royaume de Dieu. C'est bien d'adopter des habitudes de l'évangile, de la grâce, mais il y a un danger à cela. Et je vais être clair avec vous cet après-midi. Avoir de bonnes habitudes, c'est bien, mais sachez que vous pouvez avoir de très bonnes habitudes, mais ces bonnes habitudes, elles peuvent devenir mauvaises, voire mortelles, si elles ne sont pas baignées dans la grâce de Dieu. Vous vous demandez, mais comment est-ce que de bonnes habitudes peuvent devenir mauvaises ou mortelles? En fait, c'est très simple. Sachez que en tant que peuple de Dieu, c'est important d'adopter de bonnes habitudes, des habitudes spirituelles qui sont saines, qui viennent de l'Évangile. Mais si vous pratiquez ces habitudes spirituelles qui sont motivées par le légalisme et non par l'amour de Dieu ou l'amour de son prochain, ça devient mortel. Aller à l'église, prier, lire sa Bible, servir, donner la dîme, aider le migrant, c'est de bonnes choses, mais si c'est pas mariné dans la grâce de Dieu, ça sert absolument à rien. C'est du pur légalisme. Et malheureusement, pour les pharisiens, comme pour les spécialistes de la loi, qui eux avaient toutes ces bonnes habitudes, ça faisait partie de leur vie quotidienne, de leur routine, ils se sont absolument égarés dans la pratique de ces bonnes habitudes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient absolument pas saisi le message de l'Évangile et le message de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'Évangile donne et donnera toujours priorité à la grâce. Alors que eux, ils ont donné priorité aux lois, à la loi, au légalisme. Et donc, on va voir cet après-midi quelles peuvent avoir comme conséquences ce légalisme, ces pratiques, ces bonnes habitudes qui sont pas marinées ou qui ne baignent pas dans la grâce de Dieu. Premièrement, on va voir que ça dépourvoit de sens. On est dépourvu de sens lorsque l'on fait les choses qui ne sont pas baignées dans la grâce de Dieu. Deuxièmement, on va voir que ça blesse les autres. Et troisièmement, que ça nous sépare de Dieu. Donc, on va voir des versets 37 à 41 que ça nous dépourvoit de sens. Lisez avec moi au verset 37. Je lis de la Louis II 21. Pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita à dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'avidité et de méchanceté. Homme dépourvu de bon sens, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ? Faites plutôt don ce que vous avez à l'intérieur, et alors tout sera pur pour vous. Ici, Jésus fait un diagnostic qui est sévère vis-à-vis des pharisiens. Il est sévère sur la condition et de l'état de leur cœur, de leur intérieur. En clair, ici, Jésus leur reproche une chose. C'est quoi cette chose? Il leur reproche le fait que les pharisiens et les spécialistes de la loi mettent l'accent et mettent la priorité sur le paraître au lieu de l'être. C'est ça qu'il leur reproche, c'est ça qu'il critique. C'est-à-dire que les pharisiens, ici, au verset 37, s'étaient attachés à faire des activités qui étaient visibles aux autres, à leur père. Pourquoi? Pour montrer leur piété. C'est ce que Jésus critique ici. Et en l'occurrence ici, c'est la pratique du rite de purification chez les Juifs. Et plus spécifiquement, l'ablution des mains. Est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a 613 commandements? Dans tout l'Ancien Testament, il y a 613 commandements. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Mishnah? La Mishnah, c'est un commentaire, c'est une compilation de lois orales chez les Juifs. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Mishnah, il y a plus de 6000 commentaires sur ces 613 commandements de l'Ancien Testament. En fait, le but de la Mishnah, c'est de faire en sorte que les commandements de l'Ancien Testament soient appliqués et que les Juifs puissent suivre les coutumes de leurs ancêtres. Et en fait, le problème de la Mishnah, c'est que ce commentaire va au-delà de ce que demande l'Ancien Testament. Par exemple, dans la Mishnah, il y a une section qui est totalement dédiée au sabbat. Et il est dit, par exemple, que pendant le jour de sabbat, il est interdit. Une personne peut porter sur soi au maximum le poids d'une feuille de figue. C'est la Mishnah. Que faire si vous portez sur vous deux feuilles de figue? En fait, l'esprit derrière ce genre de prescription qui est légaliste, ça va totalement à l'encontre de l'esprit de Dieu et ça va totalement à l'encontre de l'Ancien Testament. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les pharisiens, lorsqu'ils appliquent les lois, lorsqu'ils appliquent la Mishnah, ils pensaient améliorer l'Ancien Testament. Ils pensaient améliorer ce que Dieu lui-même a prescrit. Et c'est pourquoi de bonnes habitudes comme respecter le sabbat, comme respecter les rites de purification, ça peut devenir mortel si ça ne part pas d'une perspective de la grâce. Le problème des pharisiens pratiquant ces rites légalistes, comme le souligne ici Jésus, c'était qu'ils étaient soucieux de leur apparence. C'était qu'ils étaient soucieux du paraître. Au lieu de se préoccuper de ce qui était à l'intérieur de leur personne, de leur santé spirituelle. Et dans notre contexte, dans Luc 11, ils étaient embarrassés que Jésus ne se lave pas les mains avant de manger. Pourquoi? De peur qu'ils deviennent eux-mêmes impurs. Et une fois de plus, les pharisiens sont totalement aveuglés par le souci de l'apparence, de l'extérieur, du paraître, etc., etc., et qu'ils étaient totalement éloignés de ce qui était plus important, c'est-à-dire l'intérieur et l'amour qu'une personne peut porter pour le Seigneur. En fait, lorsqu'on lit ce texte de Luc 11, c'est facile de prendre position et de se mettre du côté de Jésus et de critiquer ces pharisiens, c'est facile. Mais si, dans notre contexte actuel au XXIe siècle, à Paris, on analyse un peu notre style de vie, est-ce que, par exemple, vous avez déjà réfléchi au montant, aux dépenses que vous dépensez pour tout le temps que vous dépensez, tout l'argent que vous dépensez, à tout ce qui est produits de beauté, crème, soins, ou pour soigner son apparence? Est-ce que vous avez déjà pensé à toutes ces choses-là? Je veux dire, c'est normal de prendre une douche, c'est normal de se brosser les dents, c'est normal d'être bien habillé tous les jours pour montrer qu'on a une bonne hygiène de vie. Mais est-ce que vous avez déjà pensé au montant que vous dépensez en crème, produits, parfums, ou tout le temps que vous passez à la salle de sport. Est-ce que vous avez déjà pensé à refléter à ça? Pourquoi vous voulez être plus beau que vous ne l'êtes déjà ou être plus belle que vous ne l'êtes déjà? Est-ce qu'on fait toutes ces choses pour pas cacher un certain mal-être? Les pharisiens, eux, ils n'actaient que pour la façade, que pour l'extérieur, que pour le paraître. Ils voulaient simplement être bien vus par leur père. Et Jésus, il était si virulent envers eux pour cette raison, alors qu'ils suivaient parfaitement la loi. Le problème pour ces pharisiens, c'est que Jésus savait lire les faux-semblants. C'est quoi l'utilité d'être propre, de paraître bien extérieurement si à l'intérieur on est pourri? Verset 42. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante et que vous négligez la justice de l'amour de Dieu. L'aveuglement des pharisiens par ses habitudes va jusqu'au fait qu'ils pensaient être justifiés par Dieu. Ils pensaient qu'ils étaient acceptés par Dieu en faisant toutes ces choses-là. Pourquoi, en fait, de manière égocentrique, ils pensaient qu'ils étaient leur propre sauveur en pratiquant tous ces rites, toutes ces lois. Et les rites de purification étaient importantes chez les Juifs, mais sachez qu'à la base, les rites de purification, c'était destiné pour les prêtres et pour les Lévites dans le service du temple. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, au fil des années, au fil des siècles, ces lois de purification s'est un peu étendue à toute la population. J'ai envie de dire, c'est logique de se laver les mains avant de manger, niveau sanitaire, on est d'accord. Au niveau hygiène, c'est normal. Mais les pharisiens, ils avaient un but religieux pour démontrer que, en fait, leur piété était valable à tout instant. Et, en fait, ils reprochaient à Jésus de pas se laver les mains. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils avaient peur d'être impurs. Pourquoi? En fait, c'est simple. Les prêtres et les lévites à l'époque, ils avaient une relation, on va dire, très étroite avec cette question de la pureté et du rituel de purification. Si les lévites étaient impurs, ils pouvaient pas aller au temple pendant une semaine. Ils devaient passer tous un procédé de purification. Et donc, si pendant une semaine on vous voyait pas là au temple, on se posait des questions sur votre piété, n'est-ce pas? Comme si on vient pas à l'église pendant une semaine, on se pose des questions parfois. Et en fait, pour vous aider vraiment à comprendre cette obsession de la pureté, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui travaillent dans le médical? Il y en a quelques-uns qui travaillent dans le médical chez vous. En fait, justement pour comparer cette obsession à la pureté, sachez que c'est comme si l'obsession qu'un prêtre a vis-à-vis de la propreté, de la pureté, c'est comme un chirurgien lorsqu'il entre dans un bloc opératoire. C'est pratiquement la même chose. Je vais pas dire que c'est exactement la même chose parce que je suis pas dans la tête d'un prêtre, ni d'un chirurgien d'ailleurs. Mais est-ce que vous avez déjà vu Grey's Anatomy, par exemple? Oui, parfois, il y a des scènes où on voit les chirurgiens entrer en bloc. Qu'est-ce qu'ils font avant d'entrer en bloc? Ils se lavent les mains. Ils doivent bien se curer les ongles, ils doivent se laver les mains jusqu'au cou, je pense, et avoir les coudes comme ça pour que l'eau sale tombe ici et pas par les doigts. Bref, il y a tout un processus. Parce que le but d'un chirurgien, c'est de faire en sorte qu'il n'y a aucune germe, aucune bactérie, pour pas contaminer le patient qu'ils vont opérer. Et donc, vous pouvez plus ou moins imaginer dans quel état d'esprit un prêtre ou un lévite avait lorsqu'il devait servir dans le temple. Il devait être absolument pur. Pourquoi? En fait, l'objectif du rite de purification, c'était pour donner C'était pour faire comprendre un message. C'était quoi ce message ? Faire comprendre que l'impureté ou la saleté, ça a le même effet que le péché à l'âme. C'est exactement le message que voulait faire passer ce rite de purification. Et ça veut dire que en soi, ce que les pharisiens font ici, c'est une bonne chose. Ils veulent simplement être purs devant le Seigneur. Mais une fois de plus, ils ont abandonné la priorité et le sens des lois. Ils se sont perdus dans les choses extérieures au lieu de refléter les choses intérieures. Ma question pour vous cet après-midi, c'est la suivante. Par quel biais, par quel moyen vous faites les choses pour vous rendre pur? Pour montrer que vous êtes pur extérieurement. Je parle pas forcément de rite de purification, mais on fait tous quelque chose qui nous montre sous notre meilleur jour. Pourquoi? Ben pour cacher quelque chose de plus profond et cacher un truc plus intérieur qui nous souille, qui souille notre âme, qui nous rend sale. Parce qu'on ne va pas exposer publiquement ce qui nous salit. On est d'accord. On sait que notre péché nous rend impurs intérieurement. On le sait. On sait ce que l'on fait, on sait ce que l'on pense, on sait ce que l'on dit. Et donc, on va forcément trouver un moyen de cacher ce péché. Parce que après, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est sale devant les autres. Les personnes les plus pieuses, comme les pharisiens, vont s'imprégner de bonnes habitudes régulièrement en obéissant religieusement à Dieu. C'est merveilleux d'aller à l'église tous les dimanches, c'est bien de prier, lire sa Bible tous les jours, c'est très bien de donner sa dîme, de servir le prochain, le SDF. Mais c'est mortel si c'est pas béni dans la grâce de Dieu. C'est mortel si c'est pas baigné dans l'évangile. Ça sert à rien. C'est une tendance humaine de vouloir compenser notre péché, notre saleté intérieure par de bonnes œuvres externes. C'est un réflexe humain de vouloir faire ça, pour cacher quelque chose. C'est un réflexe parce qu'on veut montrer à soi-même, on veut montrer aux autres, on veut montrer à Dieu qu'on n'est pas si sale que ça, on n'est pas si nul que ça, au bout du compte. Alors, que faire? Que faire? Même si les autres ne voient pas ce que l'on fait, intérieurement, même si beaucoup de nos péchés ne sont pas visibles ou publics, aux autres, qu'est-ce qu'on fait? Dieu connaît votre cœur, ça vous le savez. Dieu connaît ce qui se passe dans votre vie, il sait ce qui se passe dans votre tête. Et donc, la seule solution, c'est quoi? C'est la confession. Pourquoi c'est la seule solution? Parce que confesser, c'est admettre sa condition. C'est être vrai avec soi-même, c'est être vrai avec Dieu. Et la confession, ça permet quoi? Ça permet l'intégrité. En quoi ça permet l'intégrité? Parce que quand on confesse, c'est extérioriser une chose intérieure. Et donc, on est véritable avec soi-même, on est intègre avec ce qui passe dans notre vie. Et ce qui est intéressant avec la confession, c'est que lorsque l'on se repent avec ses frères et sœurs de confiance, évidemment, on édifie aussi le corps. Comment on édifie le corps? Parce que ça requiert de se pardonner mutuellement en confession. Et lorsque l'on confesse ensemble, collectivement, on crée une culture de confiance, une atmosphère où on peut se pardonner et on peut s'encourager mutuellement. C'est une atmosphère où l'évangile est pratiqué, où il y a une culture de grâce qui se développe au sein de la communauté et de l'Église. Et c'est pour ça que c'est la seule solution, la confession. De bonnes habitudes qui deviennent mauvaises nous dépourvoit de bon sens, premièrement, mais ça peut également blesser les autres. Versets 42 à 47. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante que vous négligez, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez occuper les sièges d'honneur dans les synagogues et être salués sur les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des professeurs de la loi prit la parole et lui dit « Maître, en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu insultes. » Jésus répondit « Malheur à vous aussi, professeurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous ne touchez pas vous-même d'un seul doigt. Malheur à vous, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes que vos ancêtres ont tués. » Et non seulement les pharisiens ils étaient dépourvus de sens, mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils menaient les autres à la ruine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils cultivaient cette culture d'auto-justification où ils imposaient aux autres le fardeau du légalisme. Une pratique qui est malsaine, qui est hypocrite et qui est anti-évangélique. Par exemple ici, lorsque Jésus, au verset 44, parle des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir, ça parle bien sûr des corps, des morts qui sont enterrés dans le tombeau. Et lorsque l'on marche sur un tombeau, ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça rend la personne qui a marché sur le tombeau impure. Normal, parce qu'un corps, un cadavre, c'est impur. Et ce que Jésus critique ici, c'est le fait que les pharisiens soient des tombes vivantes, mais qu'on ne voit pas. Et au contact de ces pharisiens, ils contaminent leur père. Et ils causaient la perte des autres. Parce qu'ils installaient cette culture de légalisme et d'auto-justification. Ça s'est étendu aux autres. Plus de 6000 commandements dans la Mishnah et plus les 613 de l'Ancien Testament. Et ils n'étaient pas soucieux de leur père. Ils n'en avaient rien à faire de leurs frères et sœurs, entre guillemets. C'est pourquoi lorsqu'on pratique des habitudes spirituelles, on peut le faire avec toute la ferveur, tout l'engagement, tout le dévouement que on veut. Si on ne prend pas en compte ce qui se passe autour de nous, ça ne sert à rien. Ça sert à quoi donner la dîme à l'église si, à côté, vous négligez votre frère qui est dans le besoin? Ça sert absolument à rien. Est-ce qu'on veut ressembler à ces hommes qui sont pieux religieusement, qui sont parfaits au niveau de la loi, mais qui sont loin de Dieu spirituellement? Et ce qu'ils faisaient ici, les pharisiens, c'est qu'ils minimisaient la gravité de leur péché pour mettre en lumière ceux des autres. Et ça, c'est grave. Et donc, Jésus ici leur reproche d'être un point de chute pour les autres juifs. Mais pas seulement. Versets 52 à 54. Malheur à vous, professeurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous n'êtes pas entrés vous-même et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Comme il leur disait cela, les spécialistes de la loi et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le faire parler sur bien des sujets. Ils lui tendaient des pièges pour surprendre une parole sortie de sa bouche afin de pouvoir l'accuser. Les pharisiens et les spécialistes de la loi, ils étaient absolument pas soucieux de leur prochain et ils étaient surtout pas soucieux de construire une relation avec Jésus. Au contraire, comme on peut le lire ici, il s'attendait à ce que Jésus fasse un faux pas pour lui tendre un piège et pour l'accuser de quelque chose. Vous savez, Jésus, à l'époque, c'était un enseignant, un rabbin qui était connu et reconnu par les pharisiens. Mais Jésus n'était pas reconnu comme le Messie. C'était un Messie qui était rejeté. Et ce qui est bizarre, c'est que Jésus, c'était la seule personne pour les pharisiens qui puisse donner accès à Dieu le Père, à tous ces hommes religieux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces pharisiens et ces spécialistes de la loi? Ils l'ont dénigré, ils l'ont rejeté. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient être leur propre sauveur. C'est ça le problème avec ces pharisiens. En clair, ils pensaient qu'ils étaient assez bons pour Dieu. Est-ce que vous connaissez Yom Kippour? Alors Yom Kippour, c'est l'une des plus grandes fêtes chez les Juifs. Et pour nous, en tant que chrétiens, Yom Kippour, ça s'apparente au jour des expiations. C'est décrit dans Lévitique 16. Vous connaissez peut-être les grandes lignes de Yom Kippour, mais si vous ne connaissez pas, c'est la suivante. Yom Kippour, c'est une fois par an, le grand prêtre d'Israël pouvait aller dans le lieu très saint et il allait confesser ses propres péchés, le péché d'Israël, et faisait des sacrifices. Et ensuite, il sortait du lieu très saint, qui était accessible qu'une seule fois par an, que seulement au prêtre, au grand prêtre d'Israël. Et en fait, après, il transférait, entre guillemets, sur un bouc, tous les péchés, et il relâchait le bouc dans le désert. D'où l'expression « bouc émissaire ». Et en fait, avant le jour des expiations, avant Yom Kippour, le grand prêtre se préparait pendant toute une semaine. Il suivait justement ce rite de purification où il devait confesser ses péchés. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était pendant le jour même, il portait une robe blanche et il allait dans le lieu très saint, une fois de plus, pour apporter ses sacrifices afin de confesser ses péchés, ceux de sa famille, et il ressortait du lieu très saint, et refaisait la même chose pour le peuple entier d'Israël. Et donc, c'est ce qui se faisait. Et chaque année, le grand prêtre suivait scrupuleusement ce rituel. Une fois de plus, le péché, c'est une souillure de l'âme. C'est ce qui nous rend sale en tant qu'être humain. C'est une impureté morale qui fait tache aux yeux de Dieu. Et donc, à l'époque, il fallait continuellement et annuellement des sacrifices pour se débarrasser de tous ces péchés. La réalité, c'est qu'on ne vit plus sous l'Ancien Testament. On ne vit plus sous l'Ancien Testament avec la venue de Jésus-Christ. Et même si on vit sous l'alliance de la grâce, le problème de notre cœur, de notre nature humaine, c'est qu'on aime répéter ce schéma d'auto-justification et de légalisme. On aime se justifier devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que trop souvent, on nous dit qu'on n'est pas assez bien, on n'est pas assez bon, on n'est pas assez compétent, on n'est pas assez beau, on n'est pas assez ce que vous voulez. Et en réponse à ça, notre réflexe naturel, c'est toujours de prouver que si on est assez bon, on est assez compétent, on est assez beau, on est assez tout ce que vous voulez. C'est toujours un réflexe humain. On a tous notre truc personnel, on a tous une chose que l'on fait pour soulager notre conscience que en fait si on est assez bon pour Dieu. Mais la vérité, c'est qu'on ne l'est pas assez. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça passe très souvent par de bonnes habitudes que l'on s'auto-justifie. Et ces bonnes habitudes, ça devient des mauvaises habitudes avec le temps. Ça devient des habitudes qui sont mortelles parce que on le fait pour les mauvaises raisons. On le fait pour le légalisme, on le fait pour sauver les apparences, on le fait pour le paraître. Et la réalité, c'est qu'on n'a absolument rien à démontrer à qui que ce soit en tant que chrétien. On n'a pas à démontrer qu'on est assez ceci, qu'on est assez cela. Ça ne sert à rien de le faire. Jésus, il n'est pas mort à la croix pour qu'on puisse suivre des traditions pieuse et religieuse pour avoir une auto-justification. Il n'est pas mort pour ça, Jésus. Jésus, il est mort pour vous donner de la justification. Pour vous, c'est une chose qui est totalement imméritée. La grâce, oui, c'est une chose que l'on reçoit de manière imméritée, mais c'est plus que ça, la grâce. La grâce, c'est recevoir la chose contraire de ce que l'on est censé recevoir. C'est ça, la grâce. Pasteur Tim Keller, pasteur à New York, il a dit la chose suivante. La religion dit « j'obéis, en conséquence, je suis justifié ». J'obéis, donc je suis justifié par le Seigneur. Alors que l'Évangile dit « je suis justifié, je suis accepté par Jésus, par conséquent, j'obéis ». Et c'est deux visions qui sont absolument opposées, ça n'a rien à voir. L'islam, le catholicisme, l'hindouisme, le bouddhisme, c'est des règles qu'on doit suivre scrupuleusement pour être accepté par le divin ou le surnaturel. Alors que l'évangile, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En tant que disciple de Christ, on n'obéit pas pour être justifié. Nous, on obéit parce qu'on a cette liberté de vivre en Jésus. Et c'est pourquoi c'est absolument essentiel, crucial, d'avoir des bonnes habitudes spirituelles, des bonnes habitudes de la grâce, pour être constamment renouvelé, d'être remémoré que l'on vit sous la grâce. Pourquoi on va à l'église? Pourquoi on lit? Pourquoi on prie? Pour être renouvelé du fait qu'on est sauvé par grâce et seulement par grâce. Certes, on est spirituellement impur parce que l'on continue à pécher en tant qu'être humain, mais c'est ma responsabilité, c'est mon devoir de vous rappeler que lorsque on met notre foi en Christ, on est pur. Vous savez, lorsque Jésus il est mort à la croix, sa pureté est la nôtre. C'est ça le christianisme, c'est ça l'évangile. Ça veut dire que lorsque Dieu porte un regard sur vous, il ne voit plus le péché. Il voit la pureté de Christ qui est en vous. Souvenez-vous, lorsque Jésus il est mort à la croix, le voile qui était dans le temple s'est déchiré. De haut en bas, on a un accès complet au Père. Tout est définitivement accompli. Une fois de plus, c'est absolument nécessaire d'avoir de bonnes habitudes, mais qui soient baignées dans la grâce. Sinon, ça devient mortel. On n'a pas besoin de faire toutes ces choses, d'aller à l'église, lire sa Bible, prier pour plaire à Dieu. Ça sert à rien. Ça sert à rien. On peut lire sa Bible, on peut aller à prier aux réunions de prière, on peut donner sa dîme, on peut servir le SDF ou le migrant. Et de l'autre côté, on peut être loin de Dieu. C'est possible. Ça m'arrive parfois de faire des choses mécaniquement. J'en suis sûr, ça vous arrive aussi. Mais c'est important, comme je l'avais dit la dernière fois, de vraiment analyser, de faire une mise à jour de vos faits et gestes en tant que chrétien pour savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Et que vous ne faites pas ces choses juste par simple habitude. Et quand on fait toutes ces activités, on le fait par simplement parce qu'on est rempli de reconnaissance et que l'on veut passer du temps avec le Seigneur. Une fois de plus, notre vie chrétienne doit être motivée par la grâce et non pas par le légalisme. Et si vous avez cette obsession d'accomplir la loi, laissez-moi vous dire une chose. La seule manière d'aimer la loi de Dieu, c'est pas d'accomplir la loi, mais c'est d'aimer Dieu lui-même. C'est la seule manière d'accomplir la loi. C'est d'aimer Dieu. Et donc, mon exhortation, mon encouragement pour vous cet après-midi, c'est que vous puissiez vraiment prendre du plaisir en Dieu. Que vous puissiez contempler sa personne. Que vous puissiez vénérer ce que Jésus, qui Jésus est, ce qu'il a fait pour vous. Et ça vous édifiera jour après jour si vous pensez à toutes ces choses-là. Qui il est, son œuvre sur la croix. Et surtout, si vous êtes constamment dans la reconnaissance, dans le plaisir, ça fera de vous un témoignage vivant. Ça fera de vous une lumière éclatante, rayonnante. Ça fera de vous un sel qui aura plein de goût. Pourquoi ? Parce que la grâce aura toujours la priorité. Toujours. Priez avec moi. Seigneur, merci pour ce texte de Luc 11. Merci parce que tu nous rappelles beaucoup de choses. Même si parfois on lit ces textes, c'est facile de se positionner avec toi, avec Jésus, de se dire, bah oui, Jésus, t'as totalement raison. Mais parfois, on agit comme les pharisiens, mais on se met pas à la place des pharisiens. Et je te demande pardon pour toutes les fois où on agit par l'égalisme, où on le fait simplement pour essayer de te plaire, Seigneur. Et je te demande que toutes les habitudes que l'on adopte, toutes les habitudes que l'on a dans notre vie quotidienne, soient motivées par l'Évangile, par la grâce, par l'amour que l'on porte pour toi et pour les autres, Seigneur. Et aide vraiment ici l'Assemblée à comprendre ce message, à comprendre ce texte, Seigneur, à comprendre ce message de l'Évangile qui est si magnifique, qui est si merveilleux, qui est si riche en toi. Et je te demande qu'on puisse vraiment être imprégné de cette grâce, que l'on puisse la répandre en nous, que ton Saint-Esprit puisse nous aider à vivre en tant que disciples et d'être constamment renouvelé, transformé par qui tu es. Et je te prie toutes ces choses au nom de Christ. Amen.